Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour, Jésabelle Coupet-Soubeyran.
Bonjour, Nicolas.
Elle est maître de conférence à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, conseillère scientifique à l'Institut Veblen, chroniqueuse au Monde, et vous avez publié notamment Monnaie, Banque, Finance, c'est la quatrième édition aux presses universitaires de France, ou encore, vous êtes la coordinatrice de l'économie mondiale 2023, c'est publié par le CEPI, tous les ans, il y a ce petit livre que je reçois. Jean-Marc Daniel, bonjour.
Bonjour.
Professeur à l'ESCP, vous avez publié Redécouvrir les physiocrates pour une écologie libérale, plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob. Vous êtes également membre du comité éditorial. Pourquoi vous riez? Il a le droit.
Non, mais il publie tout le temps.
Ah ben oui,
à chaque fois que je viens avec lui, il y a un nouveau bouquin qui vient de
sortir. Voilà, on travaille. Voilà. Travailler, c'est trop dur.
Surtout impératif écologique pour Jean-Marc Daniel, c'est bien. Tout le monde s'y met. Formidable.
C'est pour ça qu'il faut lire le
monde. Le monde change finalement. Le monde change. Il y a des raisons d'espérer.
J'ai un peu de doute sur le contenu quand même.
Il faut lire le livre. Autant moi l'acheter. Et puis après, l'offrir.
C'est bientôt Noël. Membre du comité éditorial de Pour l'écho, à la une du numéro de décembre qui s'affiche sur l'écran, les 5 défis du commerce vert. Faut-il donner 100 milliards d'aides climatiques par an aux pays pauvres? Comment mieux négocier, produire, transformer, transporter, consommer? Et Jean-Pierre Petit, qu'on a déjà entendu, mais que je n'ai pas présenté, bonjour.
Bonjour.
Président des cahiers verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Le taux des emprunts d'État à 2 ans dépasse celui des emprunts d'État à 10 ans. C'est la première fois, au moins en 20 ans. Ça veut dire que c'est plus cher de se financer sur une courte période, hein, entre 1 et 3 ans, que de se financer sur une longue période, entre 10 ans et plus. On a l'écart entre le taux à 2 ans et le taux à 10 ans aux États-Unis qui est maintenant à moins 78 points de base. On n'avait jamais vu ça depuis 1981. Et à la suite de cette période-là, vous le savez, les États-Unis avaient quand même connu une sacrée récession. Donc on y va tout droit, là, Jean-Pierre Petit.
Oui, alors...
Pas trop long, mais
non,
pas
on
trop
va faire un truc très
ouais,
court.
Mais pas trop compliqué, hein.
Pas trop compliqué, tu vas voir. La simplicité des trucs.
Et pas trop près du micro, Jean-Pierre, sinon c'est juste...
Absolument. Bon, alors, allez. Commençons par les faits. Depuis 50 ans environ, toutes les récessions, je dis bien toutes les récessions aux États-Unis, définies par le National Bureau of Economic Research, ont été précédées par une inversion de la courbe des taux. Ça, c'est un fait. D'accord? L'inversion de la courbe des taux entre le 2 ans et le 10 ans. C'est-à-dire le 10 ans sous le 2 ans. Ça a commencé au mois de mars aux États-Unis.
Oui. On en avait parlé.
Historiquement, depuis 50 ans, si tu regardes, le début de l'inversion de la courbe des taux, ça précède le pic du cycle, c'est-à-dire le début de la récession. Alors, moyenne médiane, autour de 16-17 mois d'avance. C'est-à-dire que ça a commencé au mois de mars. Si tu répercutes, reproduis les moyennes historiques, tu te retrouves avec une récession au deuxième ou au troisième trimestre de 2023. C'est ce que souvent les investisseurs aux États-Unis ont dans la tête. Voilà. Alors, historiquement, il y avait eu des travaux académiques qui montraient depuis 40 ans, depuis que les taux baissaient, depuis que l'inflation baissait tendanciellement, que le modèle... que le caractère prédictif de la courbe des taux avait perdu un petit peu de son influence. Mais là, je prétends qu'avec le retour de l'inflation depuis la fin 2021, il a retrouvé de l'importance. Donc, c'est important. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire en économie? Parce qu'indépendamment des faits empiriques, ça veut dire que les taux longs qui regardent plus loin, les investisseurs qui investissent sur des maturités plus longues, regardent plus loin que le court terme. Alors que le 2 ans, il est très lié au taux directeur de la Réserve fédérale ou de la BCE.
Bah oui, donc c'est un taux court, le taux de la Banque centrale.
Les taux longs, ils commencent à anticiper un ralentissement de la croissance nominale, donc de la désinflation, et surtout, très probablement, une contraction, un début de contraction de la croissance du PIB réel. Donc, ils anticipent une récession. Sauf, pour l'instant, mais ils anticipent une récession. Ce que je voudrais ajouter par rapport à cela, c'est deux, trois petites choses. Il est normal que la courbe s'aplatisse, voire s'inverse, quand la Banque centrale, quelle qu'elle soit, resserre brutalement et fortement. Ça, en général, ça
oui,
se passe.
Oui, parce que comme la Banque centrale remonte un taux court, automatiquement, le taux court est plus sensible aux décisions de politique monétaire.
Exactement. Voilà. Et donc, ça, c'est le cas. C'est pas le cas partout, l'inversion. En Italie, c'est pas le cas. La France, pas tout à fait le cas. Mais c'est vrai que ce qui compte, c'est les États-Unis. Et c'est vrai qu'on voit un mouvement mondial. De toute façon, de fort aplatissement et même d'inversion. Donc, alors, il y a d'autres indicateurs avancés que je trouve intéressants pour prévoir une récession aux États-Unis et dans le monde. C'est le pic des marges aussi. Et le pic des marges.
Le pic des marges des entreprises.
Les entreprises, il est derrière nous. Vous avez le resserrement des conditions financières. Vous avez des indicateurs composites de conditions financières. C'est-à-dire pas seulement le taux court américain, mais le taux long, et le taux court réel. Le taux long réel. L'évolution du marché action, c'est-à-dire la bourse, la valorisation de marché action, les conditions de crédit bancaire, les spreads de crédit. On a une superbe dégradation que moi je n'ai jamais vue depuis au moins 1994.
Dégradation de quoi, pour être précis?
Les conditions financières sont plus dures. Beaucoup plus dur
pour accéder à un prêt.
Un prêt.
On l'a vu en France.
Ou au marché. Oui, ou au marché, hein, pour les entreprises.
Oui, enfin, aujourd'hui, les marchés actions, ils sont. Plutôt...
Le marché de la dette.
Oui, de la dette.
Là, c'est okay. Trop de taux d'intérêt réel.
Ok, ok.
Voilà. Alors, sur les émissions d'actions, il y en a beaucoup moins quand même. Hein. Donc, même les marchés actions sont touchés. Et ça, c'est important pour la macroéconomie américaine. Bon, il y a d'autres indicateurs. Par exemple, le point bas du taux de chômage qui avait été atteint il y a quelques mois, c'est historiquement un indicateur avancé de récession. Parce que quand il y a du taux de chômage très bas, il y a des pressions inflationnistes, la réserve fédérale resserre, etc. Donc oui, on va probablement, mais il ne faut pas trop s'inquiéter parce que ce sera une récession, enfin aux États-Unis, ce sera une récession, si elle a lieu, probablement assez soft pour l'instant. Si ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire un début de désinflation, se poursuit. Parce que ce qui est intéressant...
Passe la parole, Jean-Pierre.
Oui, je laisse la parole. Ouais. Je parlerai moins des autres trucs.
Oui, bah, tout est lié, là, aujourd'hui. Donc, oui,
Non, juste un truc. Ça veut dire aussi que le pari de Jérôme Powell, pour l'instant, est réussi. Hein.
C'est-à-dire, on rappelle le pari de Jérôme Powell.
Il réussit la désinflation. Le marché obligataire ne s'inquiète pas trop. Les anticipations de marché d'inflation diminuent. Les anticipations d'inflation des ménages américains diminuent. Et même des entreprises commencent à diminuer. Le tout avec de la désinflation qui a commencé dès le mois de juin. Et pour l'instant, avec des créations d'emplois qui vont fortement décélérer, mais qui sont encore en territoire positif et qui permettent pour l'instant à l'économie américaine de ne pas rentrer en récession.
Isabelle Coupé-Soubéran, est-ce que vous partagez l'analyse de Jean-Pierre Petit ?
Oui, en gros, enfin, si ce n'est que certes, toutes les récessions sont précédées d'une inversion de courbe des taux, mais toutes les inversions de courbe des taux ne sont pas nécessairement indicatrices de récession. La courbe des taux, ce n'est pas non plus une boule de cristal. Et puis là, quand on regarde les courbes des taux, alors c'est vrai qu'on voit sur la courbe des taux américaines, on voit effectivement que le taux à 10 ans passe en dessous du taux à 2 ans, mais si vous regardez la courbe en entier, c'est pas complètement une courbe inversée, c'est-à-dire que on n'a pas, si vous voulez, tous les taux longs qui sont inférieurs au taux court. Si vous regardez la courbe des taux française, eh bien vous avez une courbe des taux qui reste un peu ascendante, avec des taux courts en dessous des taux longs, et puis des taux longs qui s'aplatissent. Donc bon, je pense qu'il faut pas en faire non plus, si vous voulez, une boule de cristal. C'est vrai que c'est quand même souvent présenté par les investisseurs comme un signe avant-coureur de récession. Je pense que là, l'explication, elle est peut-être un peu plus mécanique, hein, c'est-à-dire, et vous l'avez dit
c'est
d'ailleurs.
C'est la hausse des taux.
Oui, voilà, la hausse des taux courts est plus rapide que celle des taux longs. Et puis, si on regarde le taux à 10 ans pour les États-Unis, en gros, le taux à 10 ans, il est représentatif du taux des bons du Trésor américain, le plus acheté dans un contexte d'incertitude comme celui que l'on connaît, où au fond on n'est pas tellement capable quand même de dire si aujourd'hui vraiment on a passé le pic de l'inflation ou pas. Les investisseurs ont besoin de valeurs refuge, d'actifs supposés sans risque, et malgré tout le bon du Trésor américain, ça reste un peu ça. Donc je pense que c'est plus mécanique pour le moment. Ça ne veut pas dire que on s'oriente pas vers un contexte de récession. Et je pense que de toute façon, les banques centrales assument très bien ça. Ce qu'elles nous disent, c'est nous, on remonte nos taux et on va continuer à le faire, parce que c'est la seule manière de ralentir l'inflation. Je pense qu'elles se trompent, mais on va sans doute en discuter.
C'est le débat juste après. Bon, je voulais peut-être réagir à cette inversion de courbe, Jean-Marc Daniel. Le FMI a revu à moins de 2% sa prévision de croissance mondiale 2023. Moins de 2% au niveau mondial, c'est un peu de la récession quand on est à moins de 2%. son niveau.
Oui, oui, par rapport à tout ce qui a été dit, oui. D'abord, quand on dit on n'a pas vu ça depuis 1980, ce qu'on n'a pas vu, c'est un tel écart. Mais autrement, oui. Comme l'a dit Jean-Pierre Petit, chaque récession, celle des années 90 et celle de 2008, il y a eu effectivement une inversion de la courbe des taux. Alors, est-ce que c'est un indicateur parfait? On est quand même dans une situation où, par rapport aux années 80, 90, les perturbations de l'économie mondiale ne sont pas uniquement endogènes. C'est-à-dire les perturbations de l'économie mondiale sont liées d'abord à la pandémie, qui n'est pas terminé. C'est-à-dire que la pandémie, quand on regarde ce qui se passe en Chine, elle a encore des conséquences sur l'économie mondiale. Et la pandémie de Covid. Et puis, comme dit le FMI, les fragmentations géopolitiques. Je trouve ça très beau pour désigner la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La fragmentation géopolitique.
Il y en a d'autres.
Il y a d'autres fragmentations géopolitiques à d'autres endroits.
Et donc, le fait que, oui, ce soit des éléments plus extérieurs au fonctionnement de l'économie, vous amène à quelle conclusion?
Ça m'amène à la conclusion qu'effectivement, projeter de façon automatique ce qui s'était passé dans les années 90-2000 est peut-être un peu rapide. Ensuite, par rapport à l'évolution des taux longs, je pense qu'il y a aussi une déconnexion pour les marchés entre ce que fait la politique monétaire, ce que fait la Banque centrale et la réalité de l'économie. Moi, je suis frappé par tout un tas de papiers qui commencent à dire, c'est ce qu'on disait récemment quand on débattait avec Marc Fiorentino, est-ce que les banques centrales sont impuissantes ou incompétentes? Et donc, la question commence à se poser, c'est-à-dire de la réalité de l'efficacité de la politique monétaire. Je pense qu'on sort d'un cycle de pensée et de réflexion où on avait fait de la politique monétaire l'alpha et l'oméga de tout ce qu'il fallait faire. Je rappelle que les missions de la Réserve fédérale, elle est à la fois là pour la stabilité des prix, pour le plein emploi et pour garantir un niveau de taux d'intérêt conforme à la croissance potentielle. Donc elle est censée s'occuper de tout, être capable de répondre à tout. Et on s'aperçoit qu'elle n'est pas capable de répondre à tout. Et donc il y a un peu une déconnexion, je pense, de l'anticipation que font les marchés des 10 ans sur la réalité de ce que fait la Banque centrale aujourd'hui.
Avant de poser la question suivante, incompétente, impuissante, Jézabel Coupé-Soubéran, les banques centrales? C'est vrai qu'on peut se poser la question. On ne fabrique pas des barils de pétrole et des mètres cubes de gaz avec des taux d'intérêt.
Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'elles sont capables, en fait, de lutter contre l'inflation du moment? Ça, c'est vraiment une question qui se pose. Il faut absolument qu'elles arrivent à convaincre les investisseurs qu'elles peuvent encore.
La crédibilité.
Exactement. Mais comme vous le dites, c'est en fait, les banques centrales peuvent pas lutter contre une inflation structurelle avec des hausses de taux. Et je suis assez d'accord avec Jean-Marc sur l'idée que la crédibilité finalement dont ont joui les banques centrales au cours des dernières décennies va peut-être commencer à s'étioler. Et je pense qu'il y a une ligne de faille qui est en train de s'ouvrir avec les pertes que les banques centrales sont en train d'annoncer. Pertes en fait qui résultent de quoi? Qui résultent d'une part des achats d'actifs qu'elles ont effectués massivement. Elles ont accumulé des titres à leur bilan. Là, avec la hausse des taux, la valeur de ces titres baisse. Donc elles commencent en fait à engranger.
Quand les taux montent, une obligation perd de sa valeur.
Voilà. Exactement.
C'est un peu contre-intuitif.
C'est ça. Et puis de l'autre côté de leur bilan, elles ont en fait des masses de réserves des banques qu'elles rémunèrent à un taux directeur qui augmente. Donc là, elles sont en train en fait d'annoncer des pertes énormes qu'elles vont faire. Et alors, ce qui est assez...
Oui, mais ça ne fait pas faillite une banque centrale.
Mais justement, ce qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est que en fait, une perte pour une banque centrale, ce n'est pas quelque chose de grave. Une banque centrale peut fonctionner, ou d'une banque commerciale, avec des fonds propres négatifs. Mais dans le même temps, si les banques centrales commencent à nous expliquer qu'en fait, des pertes, pour elles, ce n'est pas grave, quelque part, elles révèlent l'étendue de leur pouvoir monétaire, qui, jusqu'à présent, a été mis exclusivement au service des banques et des marchés, pas au service de la société. Et si on commençait à réaliser l'étendue de ce pouvoir monétaire, on pourrait faire bien autre chose. Alors, avec la monnaie centrale.
Ça me passionne, ce sera une question, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Sur incompétence ou impuissance, Jean-Pierre Petit?
Je comprends pas.
Pas trop près du micro, parce que là, ça va. Non, justement, pas trop près du micro.
Ah oui, d'accord, voilà. Pas de problème. Non, je ne comprends pas trop bien ce débat. Incompétence.
Si, l'histoire, d'ailleurs, c'est bien de reposer la question. Face à la situation qui est la nôtre aujourd'hui, est-ce que l'arme des taux d'intérêt a une efficacité
alors c'est la deuxième partie, l'impuissance. L'incompétence, bon.
Bon. Vous disiez quoi, vous, Jean-Marc, impuissant ou incompétent?
Moi, je disais impuissant, et Marc Fiorentino disait incompétence. L'argumentation de Marc Fiorentino.
Les histoires de faire des bilans sur les banques centrales ex post, alors qu'il y a eu deux chocs d'offres totalement inédits dans l'histoire. La plus grande pandémie de l'histoire, avec quand même plus de la moitié de la population mondiale confinée au printemps 2020. On a une guerre, on a la première guerre d'Europe de la part d'une grande puissance militaire nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité. Ça, c'est des événements qui marquent quand même. Hein.
Donc là, plus, là, vous êtes dans le camp de l'impuissance, alors.
Non, mais c'est pas ça. Mais je veux dire, les banques centrales font ce qu'elles peuvent. Je veux dire, face
oui,
à
mais
un
elles choc. Peuvent pas beaucoup.
Tous les phénomènes inflationnistes depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est des phénomènes de pénurie générés par des guerres. Voilà. On a parlé sans arrêt des années 70. Si vous regardez bien ce qui s'est passé, 73, la guerre du Kippour, elle dure 18 jours, manque de bol. Les pays de l'OPEP décident un embargo généralisé. Donc le prix du baril explose, il est multiplié par 4 en 3 mois et demi, donc l'inflation explose, la récession, etc. Si vous regardez bien les années 76 et 77, l'inflation baisse beaucoup. Oui, elle baisse beaucoup. Et manque de bol, 78-79, révolution en Iran, arrivée de Saddam Hussein en Irak, et une nouvelle guerre. Et ça repart. Voilà, parce qu'on repart de 4, 5, 6, ça dépend des pays, d'inflation. C'est des phénomènes de guerre. Alors, les banques centrales, qu'est-ce qu'elles doivent faire par rapport à ça? Elles doivent surtout éviter ce qui s'est passé à partir de 74-75, c'est-à-dire la formation d'anticipation par tout le monde d'inflation élevée. Et pour l'instant,
et donc la
sur le match, elles sont en train de réussir.
Et donc la seule solution, c'est l'utiliser les taux.
Bah, utiliser les taux ainsi que le quantitative tightening, c'est-à-dire la réduction progressive du bilan.
Mais sauf que voilà. elles vont difficilement pouvoir le faire.
Je pense que c'est l'étape un peu brûlante.
Ça, on exagère aussi là-dessus parce que il y a des études académiques qui montrent l'impact du quantitative easing sur le taux long d'équilibre et l'impact du quantitative tightening sur le taux long d'équilibre. Etc.
C'est quand on fait machine arrière.
Et l'effet stock est fondamental par rapport à l'effet flux. Tout le monde me dit, mais elles vont moins acheter, donc les taux longs vont monter. Oui, mais. Ouais. Par rapport à ce flux net de la Banque Centrale, par rapport à tous les autres flux nets qui viennent des investisseurs privés, il est très faible. Alors, à moins qu'elle soit très brutale, mais elle ne va pas l'être. Il est très faible par rapport à l'ensemble du stock. C'est rien. D'accord. C'est rien par rapport au stock d'obligations publiques qu'il y a dans le monde et d'obligations privées, d'ailleurs, puisque la BCE est concernée par les obligations privées.
Oui, allez-y, je vais vous y réagir.
Je pense que ces opérations d'achat d'actifs qu'elles ont effectuées sont quand même difficilement réversibles. C'est-à-dire que tous les titres là qu'elles ont accumulés à leur bilan, elles vont difficilement pouvoir les revendre sur le marché. Alors qu'on nous présente ça d'ailleurs comme un peu l'instrument idéal, parce que ça permettait, quand on en avait besoin, de déverser énormément de liquidités sur les marchés, et puis au moment où on n'en aurait plus besoin, la banque centrale pourrait revendre les titres, et ça permettrait à ce moment-là de faire évoluer les choses dans le bon sens. Là, le problème, c'est que si elle commence en fait à vendre des titres massivement sur les marchés, elles vont considérablement accentuer la hausse des taux longs. Elles vont considérablement faire baisser le prix de ces actifs, d'accord. Et on va dans ce cas au devant d'une crise financière.
Non.
Mais si. On va au devant d'un crash obligataire.
En 2018, elle l'a déjà fait.
Non. Pas du tout.
Elle a commencé en décembre 2017 la Fed.
Et alors qu'a fait la Fed en 2019?
Elle a arrêté.
Pourquoi elle a arrêté? Parce qu'elle ne pouvait pas normaliser sa politique monétaire comme elle le voulait. Ce n'est pas un instrument réversible. Et c'est un instrument dangereux, utilisé. Mais si,
pas du tout dangereux.
Le QE, c'est dangereux. Ça accroît les inégalités, ça forme des bulles. Et ces bulles-là, peut-être qu'on va les voir exploser. Elles ont commencé à exploser. La bulle crypto a explosé. La bulle immobilière commence à exploser.
La bulle crypto n'est pas liée au taux court de la Fed.
Mais bien sûr que si.
Mais non.
Elle n'est pas liée au taux court. Elle est liée aux liquidités. Elle est liée aux liquidités qui ont été déversées.
Sur les cryptos.
Mais si.
Mais non, mais.
Là, mais on va laisser.
C'est la flexibilité de la banque centrale, c'est tout. De toute façon, on est dans des économies ultra financiarisées.
Et c'est bien le problème.
On n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Les financiariser davantage encore, avec des instruments comme...
Faut faire une politique monétaire radicale à la Volcker. Qu'est-ce qui va se passer? On a les moyens de se payer un Volcker aujourd'hui?
Mais non, mais c'est pas du tout ça.
Mais si, 79-82, c'est le taux de chômage qui remonte à 18 aux États-Unis en août 82. Et là, aujourd'hui, avec les problèmes et les défis qu'on a pour le financement, tiens, de la transition climatique, de la transition technologique, comment on va les financer avec des taux réels qui vont monter au niveau qu'on avait au début des années 80?
Il y a plein de questions impossible. Qui sont posées pour la demi-heure qui suit. Alors, évidemment, le risque de crise financière, bon, je ne pense pas qu'il y ait un risque systémique du tout avec les cryptos, mais il y a quand même des questions qui se posent.
Les cryptos, c'est 0,8% de la capitalisation boursière mondiale.
Non, c'est
Il y aura quelques suicides, et puis voilà.
Mais c'est pas systémique, les cryptos, on est d'accord là-dessus. En attendant, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que les bulles commencent à exploser. Voilà ce que ça montre. Et des bulles qui sont formées avec la surabondance de liquidités déversées par les banques centrales.
Ça fait 20 ans que je parle d'économie de bulles.
Oui, c'est vrai. On va voir qu'une pause, là, parce que sinon...
Mais les bulles, la bulle la plus dangereuse, c'est la bulle immobilière des années 2000.
Celle-ci aussi, elle est en train de se dérouler.
Mais non, mais c'est pas du tout les mêmes niveaux de valorisation du marché immobilier américain.
On revient dans un instant.
Bien sûr qu'on revient dans un instant.
Elles sont pas si impuissantes que ça, si je vous écoute bien, par rapport...
Elles nous ont sauvés. Elles nous ont pas mal sauvés.